Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 4 février. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et notamment des mesures et des observatoires pour essayer de chiffrer son impact environnemental. On va parler d'actions qui ont été menées toute cette fin de semaine dernière contre l'Empire Bolloré. Et on va parler aussi pas mal des annonces un peu brutales qui ont été faites dans le secteur de la culture et associatif, que ce soit au niveau du département de l'Hérault ou au niveau national pour les passes culture, les services civiques, et aussi des petites nouvelles de décisions qui ont été prises au gouvernement ces derniers jours, et peut-être du nouveau dans l'affaire encore des eaux minérales, le feuilleton de l'année décidément qui n'en arrête pas de rebondir. Mesquida, le fossoyeur, ce sont des mots qui ont été prononcés et entendus et lus devant le conseil départemental de l'Hérault samedi dernier. Une petite action, une mobilisation de colère donc de la part d'acteurs du secteur culturel et associatif aussi, face aux annonces donc du président socialiste du département de l'Hérault, Kléber Mesquida, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, concernant des coupes dans le budget alloué à la culture. Une cinquantaine d'intermittents du spectacle et des acteurs du secteur se sont donc réunis ce week-end devant le conseil départemental, c'était hier, lundi 3 février, pardon, pas samedi, pour dénoncer une décision brutale et prise sans concertation. Et c'est un reporter du journal Le Point avec un G sur Montpellier qui est allé les rencontrer. Ils se sont donc réunis ce lundi pour interpeller justement les élus socialistes qui allaient assister à une réunion dédiée au budget de la culture. Donc dans le bâtiment du conseil départemental de l'Hérault, ils ont été interpellés par des intermittents du spectacle en leur demandant de penser à nous, ce qu'une jeune femme a crié à des conseillers départementaux. Tout cela fait donc suite à l'annonce la semaine dernière d'une coupe massive dans le budget départemental alloué à la culture. Une annonce qui avait été faite d'abord dans les colonnes du journal Libération, où on a annoncé une coupe de 100%. Puis Kléber Mesquida s'était expliqué dans un courrier, un communiqué où il annonçait que ça serait que 48% du budget. Et donc c'était au cours de cette réunion peut-être que les choses allaient être précisées, puisque pour l'instant rien n'était encore signé. En tout cas, cette annonce, que ça soit 100% ou 48%, a fait vivement réagir les acteurs du monde culturel, puisqu'on parle bien du budget 2025, hein, donc avec pour beaucoup des actions déjà engagées. Ce qu'on vit, dit Emmanuel qui est scénographe, c'est la queue de comète d'une détérioration que l'on constate depuis la fin du Covid. Dans le théâtre, précise-t-elle, les postes qui vont être le plus impactés sont justement les scénographes et les costumiers. Là, toutes les compagnies, qui sont des associations, attendent leur budget, mais il y a un gros manque de visibilité. Je n'ai jamais eu aussi peu de perspectives que cette année, dit-elle. Et autour de moi, beaucoup d'intermittents commencent à parler de reconversion. Pour Maïna, qui est sur place aussi et qui dirige, elle, une compagnie d'art de rue, le gouvernement n'a même plus besoin d'attaquer frontalement le statut d'intermittent du spectacle. On va disparaître. Et elle continue en soulignant le cynisme et l'incohérence de la logique, puisqu'elle précise qu'on risque de se retrouver au RSA, qui est lui aussi payé par le département, qui n'a déjà plus d'argent pour les associations. Trouver la logique, ironise-t-elle. Elle déplore également le manque de lieux pour trouver des résidences artistiques et craint que les intermittents pour suivre ne doivent passer en statut d'auto-entrepreneur. Arrivons donc à cette fameuse Startup Nation si décriée pourtant. L'action qui a eu lieu hier découle en tout cas d'une assemblée générale qui s'est tenue le samedi 1er février, à Montpellier dans la brasserie Le Dôme. Nous nous sommes réunis au sein de la coordination des intermittents et des précaires qui a été créée en 2003 pendant la grève du Festival d'Avignon, expliquait Claire Engel, qui est une metteuse en scène et syndiquée au Syndicat National des Arts Vivants. L'idée donc de cette assemblée générale, c'était de pouvoir y venir en tant qu'individu, Mais à Montpellier, nous avons une démarche unitaire avec les syndicats du secteur. C'est donc un lieu d'échange où l'on réfléchit aux prochaines actions à mener. Car vous l'aurez compris, une chose est sûre, les intermittents ne vont pas en rester là. Et même colère et vent de panique du côté des profs, notamment suite au gel, de l'annonce du gel en tout cas de la part collective du pass culture pour le reste de cette année, donc pour la fin de l'année scolaire 2024-2025. Le budget du pass culture pour les établissements scolaires a subi donc au dernier moment un sévère coup de rabot pour cette année. C'était en fin de semaine dernière qu'on l'a appris, un petit vent de panique entre jeudi et vendredi. Les établissements scolaires ont eu l'impression d'être mis devant le fait accompli, quand le ministère de l'Éducation nationale leur a appris que la part collective donc dédiée à ce dispositif qui est le pass culture était rabotée et gelée à 50 millions, donc une enveloppe globale de 50 millions pour le reste de l'année sur toute la France. Alors, je vous explique un peu ce que c'est que le pass culture déjà, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, les établissements scolaires peuvent organiser des activités culturelles avec ce dispositif, par exemple des sorties au théâtre, du cinéma, de l'intervention de compagnies aussi à l'intérieur de leurs locaux, ou par exemple, on en reparlera rapidement, et ben, des propositions d'émissions de radio spéciales, comme on en fait avec Radio Escapade par exemple. Donc tout ça se fait par une plateforme numérique qui s'appelle Adage, qui est rattachée au dispositif du Pass Culture. Elle a été dotée de 97 millions d'euros pour 2024, et la part collective ne sera finalement que de 72 millions, comme décidé dans le budget pour 2025. Cette somme, a indiqué le ministère de l'Éducation, sera par ailleurs divisée en deux, hein, 50 millions donc pour la période qui va couvrir de janvier à juin, et les 22 millions suivants pour la période septembre-décembre, puisque les budgets scolaires se font, vous vous en doutez, de septembre à janvier. Le problème, c'est que cette information est arrivée jeudi 30 janvier, et les établissements scolaires en ont été informés juste là, et les directions d'académie ont aussi indiqué d'ailleurs que 40 millions d'euros étaient déjà engagés et validés pour la période allant jusqu'à fin juin. Donc par exemple, pour un cas très concret, nous à Radio Escapade, on a quelques actions, notamment avec le collège de Grange, le collège Louise Michel, qu'on était justement en train de finaliser, donc des programmes spéciaux, des émissions de radio avec les élèves autour d'activités qu'ils ont fait. Et celles des mois de mai et juin, par exemple, sont fortement compromises à cause de cette annonce. En tout cas, le résultat de toute cette annonce, donc si vous avez fait un peu de maths, c'est qu'il ne restait donc vendredi que 10 millions d'euros pour tous les établissements, si on enlève donc tous les projets qui étaient déjà en cours de validation. C'est ce qu'a dénoncé Bruno Bobivix, le secrétaire général du SNPDEN UNSA, au cours d'une conférence de presse, et lui, il a évoqué carrément un hold-up. La CGT Éducation aussi a fait un communiqué. On y lit que les actions donc, qui ne seront pas validées ce 31 janvier ne pourront plus être financées sur la part collective. Les équipes ont été totalement prises au dépourvu et mises devant le fait accompli. Une colère donc partagée aussi par la FCPE, la Fédération Nationale des Conseils de Parents d'Élèves des Écoles Laïques, qui tonne, elle, contre une décision unilatérale, subite et incompréhensible, qui méprise l'engagement sans faille des enseignants à organiser ces sorties pédagogiques. Une pétition a d'ailleurs d'ores et déjà été lancée, déjà quelques dizaines de milliers de signatures sur Internet. De fait, cette décision budgétaire n'a laissé donc entre que 48 heures aux établissements pour valider des projets, entre une annonce et une fin officielle d'accès au 31 janvier. Mais en plus, ça l'a rendu impossible donc la réservation de nouvelles activités ou la mise en place de projets pour plus tard dans l'année. Le média Café Pédagogique et Mediapart ont de leur côté fait état d'une plateforme Adage, donc c'est la plateforme sur laquelle les profs peuvent valider tout ça, une plateforme qui a explosé sous le nombre des demandes et qui a été saturée, et donc ça a été même si les délais étaient respectés, ça a été impossible de valider pour ceux qui voulaient en dernière instance essayer de faire passer encore quelques projets. Et donc là, la plateforme a été saturée de demandes et la réservation ne rouvrira qu'au mois de septembre pour les projets donc de l'année scolaire suivante. Plusieurs élus de gauche sont sortis du bois sur ce sujet en se faisant le relais de la colère des profs. On peut citer l'élue insoumise Sylvie Ferrer sur le réseau social X. « Une enseignante m'a dit en colère, c'est foutu, la sortie préparée avec mes élèves n'est plus financée. On a appris la fin du pass culture collectif aujourd'hui. » Une autre collègue à elle, députée Sarah Legrain, qui a pointé du doigt à elle qu'en revanche, le spectacle controversé sur le Puy du Fou soit désormais, lui par contre, intégré au pass culture, mais sur la part individuelle. Ce gel du budget devrait également se faire ressentir auprès des différents secteurs artistiques associés, des théâtres ou des festivals. ont fait également part de leurs inquiétudes dans les médias. Et on, donc, je vous le disais, on peut ajouter à toute cette liste, et bah, par exemple, les radios associatives avec tous ces faux projets financés via ce dispositif qui, pour l'instant, reste très, très incertain pour la suite de cette année.
Je fais « What ?» Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
Et puis on reste sur le budget avec une autre annonce qui a été accueillie froidement cette fin de semaine, à savoir que depuis ce 1er février, toutes les nouvelles missions de service civique sont suspendues. Là aussi en raison des incertitudes sur le budget de l'État. C'est l'Agence nationale du service civique qui en a informé les associations deux jours avant, on était le 30 janvier. Et elle a demandé à tous les organismes qui accueillent des personnes en service civique ou qui comptent accueillir des personnes en service civique de suspendre toute entrée en mission à partir du 1er février, quand bien même un contrat a été saisi ou même validé. Dans ce même message, l'Agence du service civique précise que la suspension tiendra jusqu'à l'adoption du budget de l'État pour 2025. Les services civiques, je vous le rappelle au cas où vous ne le sauriez pas, ce sont des missions d'intérêt général confiées par des associations, des clubs sportifs ou des collectivités, à des jeunes volontaires, donc des jeunes de 16 à 25 ans, et ce pour une durée de 6 à 12 mois. Cela en échange d'une indemnité entre 5 et 600 euros en gros. Des associations et des députés ont dénoncé une décision qui laisse les jeunes sur le carreau, puisque certains devaient en effet commencer leur mission là, ce 1er février. Et donc, pour tous ces jeunes, ce sont des jeunes qui devaient accorder de leur temps pour assurer des missions de solidarité liées à la culture, au sport, et qui, là, sans signature de contrat, ne peuvent pas être assurés ou indemnisés. Certains jeunes traversent la France ou viennent de l'étranger pour venir faire une mission de service civique, et on est dans l'incapacité de leur donner la date du début de cette mission. C'était le témoignage donc d'un responsable d'association. Un communiqué a émané aussi du syndicat des associations, qui rappelle qu'il n'y a pourtant jamais eu autant de précarité des jeunes qu'aujourd'hui. Nous le voyons au quotidien en tant que professionnels de l'animation, du social, de l'insertion et de la culture. Depuis des années, Asso Solidaire, donc c'est le nom de ce syndicat, dénonce le dispositif de volontariat en service civique comme moyen de contourner le droit du travail, d'exploiter la force de travail de la jeunesse à bas coût et d'accentuer la précarité financière des assos. Cette nouvelle attaque illustre le besoin de mettre fin à la dépendance, à ces sous-contrats dans le secteur associatif et à la mise en place d'une véritable politique publique de l'emploi des jeunes. Donc Asso Solidaire demande une réforme de l'emploi pour que cesse ce chantage gouvernemental. Bon, dans tout le remous lié à l'adoption ou pas de ce budget, il y a quand même eu des bonnes nouvelles, hein. Mais pas pour vous ni pour nous. Et oui, ce sont les anciens premiers ministres et chefs d'État qui vont finalement échapper à la suppression de leurs avantages. Ouf. La commission mixte paritaire a en effet rejeté ce 31 janvier une idée qui venait du Sénat et qui proposait de mettre fin aux avantages dont bénéficient les anciens chefs de gouvernement. Avant donc de se mettre d'accord sur une mouture finale du projet de loi finances pour 2025, qui prévoit, vous le savez, de nombreux milliards d'économies et de coupes budgétaires, eh bien, cette commission mixte paritaire n'a pas retenu, donc vendredi dernier, un amendement qui avait été déposé par la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Cet amendement prévoyait de supprimer les avantages accordés aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres. Il faut dire que chaque année, c'est près de 2,8 millions d'euros qui sont consacrés à ces anciens responsables politiques. Chacun de ces ex dispose par exemple d'une voiture avec chauffeur et d'un secrétariat, à condition qu'il n'en ait pas dans le cadre d'un autre mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une autre fonction publique. Donc pour ceux qui sont vraiment sortis de la fonction publique. Pour ce qui est des anciens présidents, aujourd'hui il y a seulement Nicolas Sarkozy et François Hollande encore en vie d'ailleurs, eh bien ils ont un loyer pour des bureaux qui est également pris en charge. Eh bien, la sénatrice centriste a justifié son amendement devant les sénateurs avec ces mots. Ils sont pour la plupart multipensionnés et disposent tous de facultés contributives suffisantes. Par ailleurs, nombreux sont encore en activité, comme avocats ou consultants, ou sont même élus. Selon elle, donc, il n'y a aucune raison de maintenir les moyens de la République à des citoyens qui ne la servent plus. D'autant, rappelle-t-elle, qu'ils ne sont pas de grands nécessiteux. Franchement, personne n'est au resto du cœur. Ça, ce sont les mots donc, de la sénatrice qui défendait son amendement devant le Sénat. Elle s'était réjouie d'ailleurs de l'adoption de son amendement, en écrivant à l'époque « Fin des avantages des présidents et anciens premiers ministres, c'est voté et hop hop hop, des économies ». Effectivement, c'était assez concret comme, et rapide comme mesure. Et bien donc, non, pas pour cette fois-ci. D'ailleurs, c'est dans le Canard enchaîné qu'on a pu lire le 29 janvier que le nouveau Premier ministre, François Bayrou, s'était personnellement opposé à l'idée de supprimer ces avantages. Tu m'étonnes, il vient juste d'y avoir accès et bim, ça allait lui passer sous le nez. Il s'est justifié ainsi. Il faut bien qu'il y ait dans l'État des choses stables. Quand on occupe des postes à responsabilité dans des moments de crise, il y a forcément, pour le futur, des précautions à prendre. Voilà, c'est ce qu'il avait déclaré donc, devant les députés Modem. Son prédécesseur, Michel Barnier, réfléchissait déjà à l'automne d'ailleurs de demander un effort aux anciens ministres et anciens premiers ministres. Bon, quoi qu'il arrive, donc c'est pas pour cette fois-ci, mais la sénatrice Nathalie Goulet a assuré sur la chaîne Public Sénat qu'elle ne baissait pas les bras, et qu'il recommencerait l'année prochaine.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on les laisse un peu tranquilles, les députés et les ministres. Ah non, en fait, le scandale sanitaire des eaux minérales prend là aussi une tournure politique. Après des nouvelles révélations par le journal Le Monde et Radio France, leur commission de reportage et d'enquête sur justement le lobbying de l'entreprise Nestlé, qui se serait infiltré jusqu'au plus haut sommet de l'État, eh bien, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur ce sujet déclarait ce matin sur France Info justement qu'il comptait proposer à sa commission d'aller auditionner du côté de l'Élysée pour aller au bout de la vérité. L'objectif du sénateur socialiste de l'Oise, donc Alexandre Ouizil, qui est donc le rapporteur de cette commission d'enquête, c'est d'aller faire témoigner sous serment le puissant secrétaire général d'Emmanuel Macron, à savoir Alexis Kohler. On se rend compte qu'il y a des services impliqués à tous les étages de l'État, déplorait donc le rapporteur Alexandre Ouizil, avec, d'après donc lui, assurément des erreurs et des fautes au plus haut niveau de l'État. Les deux médias ont révélé ce matin de nombreux échanges depuis des années entre l'entreprise Nestlé Waters, qui est une filiale du groupe suisse qui est propriétaire des marques Vittel et Perrier, entre autres, et donc des échanges avec divers ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, l'organisation territoriale, y compris donc jusqu'à Matignon et l'Élysée. Et la firme a finalement obtenu gain de cause, hein, en étant notamment autorisée à utiliser des dispositifs non conformes aux réglementations européennes pour filtrer ces eaux minérales qui ne sont pas si pures et minérales que ça, visiblement, en particulier, vous le savez, dans les usines du groupe dans le Gard, donc chez Perrier à Vergèze et dans les Vosges. Au mois de novembre, le Sénat avait entériné la création de cette commission d'enquête pour faire la lumière sur les pratiques des industriels de l'eau embouteillée, notamment donc sur des procédés de filtration qui sont interdits et qui ont été réalisés par Nestlé. Des faits qui avaient été révélés il y a un an maintenant, dès janvier 2024, par des enquêtes journalistiques, là aussi du Monde et de Radio France, ce qui avait amené le parquet d'Épinal à ouvrir une enquête préliminaire. En France, le groupe Alma, qui est leader des eaux minérales et de sources, ils ont les bouteilles cristallines, Saint-Yor, Vichy, Célestin, avaient eux aussi reconnu faire l'objet d'une procédure judiciaire. On va parler un peu d'intelligence artificielle avec le lancement d'un observatoire mondial justement sur l'impact environnemental de cette fameuse intelligence artificielle. Avec le soutien de Capgemini, l'Institut IA et Société, l'École Normale Supérieure et la Fondation de l'ENS lancent donc un observatoire dédié à l'analyse des impacts environnementaux de l'intelligence artificielle, et ce à toutes les étapes de son cycle de vie, donc de l'entraînement de ces IA jusqu'à l'ajustement, l'inférence, donc là c'est quand elle est officiellement ouverte au public, et la fin de vie, et tout ça avec leur mitigation. Là j'avoue que j'ai un peu buté sur les termes techniques. En tout cas, cet observatoire a pour ambition d'établir une méthodologie solide et partagée pour promouvoir des pratiques durables d'utilisation de l'IA. Ça reste à voir. Quelques chiffres en tout cas qui viennent illustrer ces problématiques. Les puissances de calcul croissantes qui sont requises donc par ces nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle entraînent une augmentation de son empreinte environnementale, notamment en matière de consommation d'énergie, mais aussi en matière de consommation d'eau, et une empreinte carbone donc qui explose. Un article récent des équipes recherche et développement de chez Capgemini montrait que les grands modèles d'IA générative consomment 4600 fois plus d'énergie que les modèles traditionnels et que dans le scénario le plus élevé, donc pour les prévisions des années futures, l'usage de l'électricité liée à l'IA pourrait être multiplié par 24 d'ici l'année 2030, donc dans 5 ans. avec l'utilisation massive d'applications d'intelligence artificielle générative grand public, vous savez, des textes avec ChatGPT ou des images ou de la musique. ChatGPT qui est par exemple en ligne depuis 2022, eh bien la demande en ressources numériques ne cesse d'augmenter. Cette demande s'inscrit dans un contexte plus large de l'impact environnemental du numérique, puisque les technologies sont aujourd'hui omniprésentes. L'étude de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en avril dernier déjà, dressait un constat alarmant. Qu'on parle des data centers, donc les centres où sont hébergées toutes ces données, parce que le cloud, c'est pas dans les nuages, jusqu'aux appareils connectés qui peuplent maintenant les voitures, les maisons, etc., et les entreprises. L'empreinte environnementale du numérique se situe environ entre 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre du monde, et pour ce qui est de la France, à 2,5%. Eh bien, ces émissions de gaz à effet de serre, si les choses continuent telles que prévues, en tout cas par les géants de la technologie, pourraient augmenter d'ici 2040 de 60%. De plus, les serveurs, les réseaux, les data centers consomment énormément d'énergie, donc de l'électricité. Selon l'analyse toujours de l'ARCEP, mais aussi de l'ADEME, en 2022, les équipements et infrastructures numériques représentent environ 10% de la consommation d'électricité en France par an. Et cette consommation grimpe en flèche à mesure que de plus en plus d'utilisateurs vont vers l'IA. D'ici 2027, l'IA générative pourrait peut-être utiliser autant d'électricité que toute l'Espagne en 2022. Ça, c'est la banque américaine Morgan Stanley qui a fait une étude pour donner son analyse sur le secteur. Autre facteur aggravant dont je vous ai parlé, eh bien, c'est l'eau, puisque la nécessité de refroidir ces centres de données, ces data centers et ces services cloud, eh bien, il faut les refroidir pour pas qu'ils surchauffent, c'est comme les centrales nucléaires. Ce processus exige souvent d'importantes quantités d'eau. Selon le rapport environnemental de 2023, par exemple, chez Google, les data centers ont consommé près de 20 millions de litres d'eau en 2022. ChatGPT, si on revient à l'IA générative de texte, ChatGPT s'est si profondément ancré dans les habitudes des internautes, paraît-il, qu'il et elle sont nombreux à le préférer à Google. Plutôt que d'aller chercher des choses dans Google, vous demandez à ChatGPT de vous donner des réponses. Sachant que c'est souvent un petit peu aléatoire la véracité des réponses, je ne vous recommande pas de faire ça, ne serait-ce que pour avoir des résultats à peu près fiables. Et en tout cas, ce choix du ChatGPT n'est pas anodin, puisque une requête sur ChatGPT utilise en moyenne entre 6 et 10 fois plus d'énergie qu'une recherche traditionnelle, par exemple avec Google. Ça, ce sont des récentes projections qu'on réussit à chiffrer ça. En tout cas, pour revenir à cet observatoire mondial sur l'impact environnemental de l'IA, donc il a vocation à réunir une communauté multi-acteurs d'experts internationaux. Ça, c'est le communiqué que je vous livre, du monde académique, des entreprises et de la société civile, afin d'établir donc une méthodologie pour mesurer l'impact environnemental de ces technologies d'IA, créer une base de données mondiale en accès libre, à laquelle les développeurs et chercheurs pourront contribuer avec des données sur la performance environnementale de leur modèle, et tout cela, paraît-il, pour promouvoir des pratiques d'intelligence artificielle durable et diffuser les connaissances. Bon, vous l'aurez compris, pour ce qui est des pratiques durables de l'IA, ça semble un petit peu irréaliste, mais j'imagine que quand on monte un observatoire comme ça sur le papier, il faut écrire ce genre de choses-là pour que le projet soit adopté. Et bien justement, puisqu'on parle de consommation des ressources moindres, on termine là-dessus avec l'affaire DeepSeek. Vous savez, c'est justement l'intelligence artificielle qui vient de chez les Chinois, qui concurrence donc directement OpenAI. Eh bien, OpenAI, d'y enquêter sur un possible plagiat d'un de ses modèles par son concurrent chinois. Et là, c'est quand même assez rigolo. DeepSeek a ébranlé tout le secteur de l'IA en proposant des grands modèles de langage qui atteignent des performances comparables, en effet, à ceux de l'agent conversationnel ChatGPT. Mais l'intérêt de DeepSeek, c'est qu'il nécessite beaucoup moins de calculs informatiques et donc d'énergie. Mais le problème, c'est que pour arriver à ces résultats spectaculaires, c'est qu'ils ont bien pompé chez ChatGPT, et puis qu'ils ont amélioré le process, quoi. Nous avons connaissance, déclarait justement OpenAI, nous avons connaissance des indications selon lesquelles DeepSeek pourrait avoir distillé de façon inappropriée nos modèles, et nous partagerons des informations quand nous en saurons plus. Alors quand il parle de distiller, ça consiste à entraîner un modèle grâce aux réponses données par un autre, comme un élève avec un professeur. C'est d'ailleurs couramment utilisé par la plupart des fabricants pour créer des versions plus petites, donc plus légères et moins coûteuses, d'un gros modèle. entraîner un modèle avec les réponses de ceux d'OpenAI, pourtant c'est interdit, notamment par les conditions d'utilisation de l'entreprise. Mais la déclaration contre la start-up chinoise de la part des Américains a quand même valu des accusations de double discours à l'entreprise américaine, puisqu'elle-même est accusée de violer les droits d'auteur en entraînant sa propre intelligence artificielle là sur le travail de vrais humains. Allez, on termine ces nouvelles du monde avec un petit retour de ce qui s'est fait contre Bolloré et son monde ce dernier week-end. Des militants se sont mobilisés à Montpellier, par exemple, contre le partenariat mortifère, disent-ils, entre le CIRAD, qui est un établissement public, et une entreprise soutenue en partie par Vincent Bolloré, le milliardaire d'extrême droite et multipropriétaire de médias. Ces militants étaient présents donc devant l'entrée du campus montpelliérain du CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique et pour le développement. Un site où travaillent quand même plus d'un millier de salariés. Ils ont donc distribué des flyers, pendu des banderoles et distribué des cookies pour alerter justement sur les implications peut-être du partenariat avec Bolloré. Une dizaine de ces militants qui faisaient partie des groupes locaux de Extinction Rébellion ou des Soulèvements de la Terre était présent jeudi dernier 30 janvier, donc devant l'entrée, pour lutter contre le projet xénophobe de Vincent Bolloré. Ce sont les mots de Paul, un militant des Soulèvements de la Terre. Travailler avec lui, dit-il, c'est légal, mais ce n'est pas moral. Le CIRAD est financé par nos impôts, nous avons un droit de regard sur ce qu'il s'y passe. Cette manifestation s'était inscrite dans une campagne plus large qui s'appelait Désarmer Bolloré, 5 jours d'action contre l'empire du milliardaire. Et donc à Montpellier, Paul et ses camarades sont venus dénoncer précisément la collaboration d'une filiale détenue à 60% par le CIRAD et qui s'appelle Palm Elite et la société Socfin, dont Bolloré est un actionnaire minoritaire. L'entreprise possède plus de 390 000 hectares de palmiers à huile et d'EVA à travers le monde, ça c'est Palm Elite, et des ONG l'accusent de maltraiter ses travailleurs et de polluer des cours d'eau. Non pardon, Socfin, la société de Bolloré justement. En août 2024, c'est d'ailleurs le fonds souverain norvégien, qui est actionnaire du groupe Bolloré, qui pointait de graves violations des fonds des droits humains. Donc à l'entrée du campus, les salariés dans la matinée, eux, étaient souvent pas au courant de cette collaboration. Et Cathy, une des militantes sur place, a affirmé avoir eu un super accueil des salariés qui, pour la plupart, ne sont pas au courant que leur employeur travaille avec Bolloré. Le tract qui était distribué, d'ailleurs, se voulait plutôt pédagogique, hein, avec des reportages et des documentaires accessibles via un lien Internet. Et deux gendarmes sont venus documenter l'action, avec quelques photos à l'appui. Le chercheur Thomas Balinguin était présent sur place et il salue notamment les équipes de reporters qui étaient là pour couvrir l'action. Ce chercheur explique que le respect de l'éthique est quelque chose de très important justement pour les chercheurs. Il est secrétaire du syndicat CGT CIRAD et il rappelle que dans le CIRAD justement il y a une histoire lourde puisque l'organisme est né en 1984 de la fusion d'instituts qui travaillaient sur les anciennes colonies. Lui non plus, d'ailleurs, n'était pas au courant de la collaboration entre la filiale du CIRAD et la Socfin. On sait que nous travaillons avec l'industrie de l'huile de palme, mais nous n'avions pas l'identité des entreprises, explique-t-il. Or, les valeurs fondatrices du CIRAD, c'est la coopération internationale et la solidarité. Le projet de l'extrême droite est aux antipodes de ça. Il veut d'ailleurs maintenant porter le sujet en interne et a confirmé que c'était bien que des personnes extérieures alertent justement les travailleurs, puisqu'ils vont maintenant interroger leur direction et relayer le débat donc entre les salariés. Des mobilisations de ce type, hein, au nom de Désarmons Bolloré, ont ainsi été organisées pendant les 4 jours, donc jusqu'au dimanche 2 février dans toute la France. On a pu comptabiliser jusqu'à 70 de ces surgissements, hein, c'est le nom qui ont été donnés à ces actions qui ont été très diverses, comme par exemple en Bretagne, un Fest Days, c'est comme un Fest Noz, mais c'est en journée. Et celui-ci s'est déroulé le 2 février, dimanche, à Fueno. Je crois qu'on dit comme ça, c'est écrit Fest Noz, mais je pense qu'on doit dire Fueno. On est dans le Finistère, une petite commune de 10 000 habitants, dont 32% de résidences secondaires d'ailleurs, et pas mal de propriétés à Bolloré. Le thème de la fête d'ailleurs, c'était tout simple, c'était Kenavo Bolloré, donc au revoir Bolloré en breton. On est ici aujourd'hui car Vincent Bolloré a plusieurs propriétés à Fouesnant et il a déjà hébergé ses gardes dans ses propriétés, des gardes issus du groupuscule d'extrême droite. Expliqué d'ailleurs en présent à cette fête qui était un carnaval aussi. En effet, cet été, c'est le média La Lettre qui révélait que le milliardaire avait, par exemple, recruté pour sa sécurité Marc de Caqueret-Valmeignier. Lui, c'est un néo-nazi issu du GUD, le groupe Union Défense, et il avait été recruté pour surveiller sa maison située sur l'île du Loc au sein de l'archipel des Glénans, donc en face de Fouesnant. D'après La Lettre, depuis plus de 10 ans, Vincent Bolloré fait appel à une société qui est directement liée à la GUD Connexion pour surveiller sa propriété qui s'appelle Checkport. Un moyen aussi pour ne pas que l'extrême droite s'accapare la culture bretonne, ça c'était une autre des revendications de ce Face Days, donc ce carnaval contre Bolloré. Et c'est Juliette Ruisseau qui l'explique, perruque blonde sur la tête, puisqu'elle rappelle que le milliardaire se vante justement de ses racines bretonnes et qu'il n'hésite pas à revêtir la tenue traditionnelle lorsqu'il s'agit par exemple de fêter les 200 ans de son groupe. Bien, ces carnavaliers souhaitaient aussi revendiquer une autre culture bretonne. En tout cas, près de 70, donc je vous le disais, de ces surgissements qui ont visé des sites de l'Empire Bolloré à travers toute la France et la Belgique ont été reportés durant les 5 jours de mobilisation qui ont été lancés par le collectif qui s'appelle Désarmer Bolloré. Je vous en parlerai d'une autre un petit peu moins festive pour terminer. Tout d'abord, les entrepôts pétroliers de Bolloré Énergie ont pu être ciblés à Strasbourg, mais aussi dans le Loiret ou dans la Nièvre. Et une autre action donc a été revendiquée en Belgique. C'est le désarmement nocturne de l'entreprise Easier. Ça s'est passé dans la nuit du 26 au 27 janvier. Donc les locaux de cette entreprise, qui est une collaboration entre IER et Automatic Systems, on est à Wavre en Belgique, et bien ces locaux ont été attaqués dans la nuit, on va dire vandalisés et sabotés. Easier, c'est une branche de l'Empire Bolloré qui est spécialisée dans le développement des technologies de surveillance, justement, la fameuse IA qui arrive dans nos vies aussi par des endroits sur lesquels on a assez peu de prise, par exemple la surveillance vidéo, mais la traçabilité aussi, ou le contrôle aux frontières. Et cette entreprise est aussi présente d'ailleurs dans plusieurs autres régions de France. La porte d'accès du bâtiment a été forcée, ils ont pu saccager la machinerie lourde et les ordinateurs de l'entrée. Les vitres des bureaux ont été brisées, l'intérieur recouvert de peinture, et il n'est également pour l'instant plus possible de badger pour rentrer dans le bâtiment. Une multitude de messages explicites ont été inscrits sur les façades. On pouvait y lire « Surveillance généralisée, fascisme à l'arrivée » ou bien encore « Bolloré bâillonne nos libertés, Bolloré empire sécuritaire ». Pour ce qui est des organisateurs de cette campagne Désarmer Bolloré, il rappelle qu'aucun des secteurs clés de l'Empire Bolloré, donc qu'on aille de l'extractivisme aux énergies fossiles, de l'agro-industrie néocoloniale aux industries technosécuritaires, le conglomérat médiatique et culturel n'a été épargné. Allez, Kenavo les bouseux, on se donne rendez-vous jeudi prochain, on termine là-dessus, et puis vu qu'on était en Bretagne, on va finir tout en finesse avec les Ramoneurs de Menhir pour finir en musique, et puis je vous dis à jeudi pour d'autres informations. Ouais.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.